Le journal Belinda Bosuma.
Nord Kivu, le vice-gouverneur met en garde les seigneurs des guerres qui continuent à recruter des combattants après avoir signé l'acte d'engagement de Goma. Feller Lutahiri Chiroua rappelle aussi aux groupes armés étrangers que la MONUC est prête à les rapatrier dans la dignité vers leur pays d'origine. Commémoration ce jeudi 26 juin de la Journée des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Plusieurs manifestations sont organisées à travers le pays. Au Nord Kivu, par exemple, c'est sous forme d'une journée porte ouverte de réflexion et de plaidoyer sur la torture. Et puis, dans la seconde partie de ce journal, nous serons au Katanga pour parler de la fermeture depuis hier des bureaux de l'ONG Dutch International de Lubumbashi sur ordre du ministère provincial de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, le vice-gouverneur met en garde les seigneurs de guerre qui continuent, selon lui, à recruter des combattants après avoir signé l'acte d'engagement de Goma. Feller Lutahiri Chiroua rappelle aussi aux groupes armés étrangers rwandais et ougandais que la MONUC, à travers le programme DDRRR, est prête à les rapatrier dans la dignité vers leur pays d'origine. Il a fait cette déclaration lors de son adresse tenue hier à l'intention de la population de Butembo et ses environs. Des détails avec Étienne Moindo.
Tous les groupes armés œuvrant dans les territoires de Lubero et de Beni sont pointés du doigt par le vice-gouverneur Feller Lutahiri Chiroua. Selon lui, à Kaina, dans les territoires de Lubero, les Maïmaï Kassindié recrutent. Dans les territoires de Beni, les Maïmaï de Vorondo, tout comme ceux de Rwenzori, font de même. D'après lui toujours, ces recrutements avec promesse des grades les plus élevés engendrent la peur chez la population, d'où la rumeur de la reprise de la guerre. Le vice-gouverneur affirme que ces recrutements se font en campagne comme en ville, surtout dans les milieux de démobilisés. Il promet que la justice civile et militaire sera mise à contribution pour châtier ceux qui violent le processus de paix, surtout l'acte d'engagement signé lors de la conférence de Goma. Le vice-gouverneur reconnaît que le programme Amani connaît du retard. Il faut pacifier nos contrées par un cessez-le-feu permanent pour que les milliers de déplacés retournent dans leur village d'origine, poursuit-il. Rappelons qu'après Butembo, le vice-gouverneur et sa suite se rendent ce jeudi à Kassindi via Beni pour la même mission. Étienne Mouindo, Butembo, Radio Okapi.
En province orientale, les rebelles ougandais de LRA poursuivent leurs exactions à l'intérieur du territoire de Dungu, à plus de 800 km au nord-est de Kisangani. La commission diocésaine Justice et Paix, qui donne cette information, parle des pillages de quelques localités et la tentative d'enlèvement des femmes à Lidimbiri et à Limbwere, acte perpétré par des éléments de LRA. De son côté, la société civile locale estime qu'il n'y aura pas de paix dans cette région tant que les LRA n'en seront pas chassés.
Les dernières exactions de ces rebelles remontent aux environs du 16 juin dernier dans les localités de Bitima, Nagungé, Lidimbiri et Limbwere. Cependant, ces cas n'ont été rapportés que ce matin à Radio Okapi par la commission diocésaine Justice et Paix. Celle-ci affirme que plusieurs biens matériels ont été emportés, notamment des chèvres, des vêtements ainsi que des produits agricoles. La même source ajoute qu'à la chapelle Nagungé, les LRA ont également emporté des objets sacrés. Les offrandes n'ont pas été non plus épargnées. À Lidimbiri et à Limbwere, les rebelles ougandais ont été, semble-t-il, fascinés par la beauté de quelques femmes. Même deux d'entre elles, enceintes, ont été ciblées. Elles ont échappé à un enlèvement, profitant d'une discussion entre villageois et rebelles pour se retirer des lieux. Alors que la société civile s'inquiète des exactions répétées de ces rebelles en toute quiétude, le commandant de la 9e région militaire rassure. Selon le général Jean-Claude Kifoua, des opérations militaires seront bientôt menées conjointement avec le Soudan et l'Ouganda, avec l'appui de la MONUC, pour chasser les LRA du territoire congolais. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a pressé les rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur LRA de libérer les femmes et enfants enlevés dans des pays voisins. Dans un rapport au Conseil de sécurité cité par l'AFP, Ban Ki-moon demande au groupe de travail de l'ONU en Ouganda de surveiller avec les pays voisins les actions des rebelles ougandais qui recrutent des enfants dans les pays limitrophes et en abusent. Selon l'UNICEF, plus de 25 000 enfants ont été kidnappés par la LRA pour en faire des combattants ou des esclaves sexuels depuis 20 ans. Le monde commémore ce 26 juin 2008 la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes des tortures. Au Nord Kivu, la manifestation a été organisée sous forme d'une journée porte ouverte de réflexion et de plaidoyer sur la torture par le Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme en collaboration avec le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme de Goma. Au cours des échanges, cette organisation de défense des droits de l'homme a dressé un bilan mitigé sur les actes de torture commis par certains services. Des détails sur cette rencontre avec Gabriel Ouaménia.
Selon les organisations de défense des droits de l'homme réunies en ce moment à Goma, l'ampleur des cas de torture physique exercés sur des civils que sur des militaires est épouvantable. Au total, plus de 50 cas ont été identifiés depuis le début de cette année sur l'ensemble de la province. Selon l'ONG CREDU qui organise les activités pour plusieurs thèmes, dont la contribution de la justice à la répression de la torture, les cas de torture perpétrés par les responsables militaires, ceux de la police et les services de l'ANR, sont surtout fréquents dans les territoires des libéraux, Rutshuru et Beni. Les mêmes sources indiquent que les tortionnaires recourent au fouet, aux traces d'arbres, à la peau de l'hippopotame et habituellement à la matraque pour arracher les aveux de leurs victimes. À la fin de la journée, les participants envisagent élaborer un cahier de recommandations pour réprimer les actes de torture au Nord Kivu. Cet outil d'ensemble sera réuni à chaque service présent dans la salle à titre de vade-mecum. En direct de la salle polyvalente de Soweto, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Dans le même cadre, en province orientale, l'ACA, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, réaffirme la pratique de la torture et autres traitements dégradants à l'endroit des hommes et des femmes dans la province. Constat fait en l'intervalle d'une année. Déclaration faite ce jeudi par le président de cette organisation en marge de la commémoration de cette journée. Cette ONG internationale de défense des droits de l'homme souhaite en outre que le projet de loi sur la pénalisation de la torture soit vite adopté par l'Assemblée nationale. Pierre Essanga Nyawani, président provincial de l'ACA, est au micro d'Aliana Ali Panagama.
Aujourd'hui, la prison centrale de Kisangani, pas plus longtemps qu'avant-hier, nous avons observé une personne suspendue sous menotte, sous notre œil attentif. Nous avons trouvé dans le même lieu une personne ligotée, jetée en plein air, saignant du sang. Notre observation nous fait montrer que la pratique de la torture est encore bel et bien vivante dans la province orientale, spécialement à Kisangani. Cette année, nous allons poursuivre, nous allons envisager des actions de grande d'avergir, en fait de demander l'Assemblée nationale d'inscrire cette avant-proposition de loi pénalisant la torture en fait que la loi soit votée. Et nous rappelons l'autorité de prendre toutes les dispositions conformément aux engagements que la République démocratique du Congo a pris à cette question-là.
Imana Ingulu, rapporteur de la Haute Autorité des Médias et l'un des cadres du mouvement de libération du Congo, a été libéré hier dans la soirée après 6 jours de détention. L'annonce de sa libération a été faite par le député Thomas Luaka, secrétaire exécutif du MLC. Selon ce dernier, les motifs réels de l'arrestation et de la libération de Imana Ingulu ne sont toujours pas connus. Pour rappel, Imana Ingulu avait été arrêté le 20 juin dernier par la police d'intervention rapide PIR après un accident de circulation. La restructuration de la SNEL ne pourra intervenir qu'après sa stabilisation. Cette première phase devra s'étaler sur une période de 5 à 8 ans. C'est ce qui ressort du séminaire atelier clôturé hier par le comité de pilotage des réformes des entreprises publiques, les ministères du portefeuille, celui de l'énergie et les bailleurs des fonds. Un projet de feuille de route de cette restructuration a été proposé par le COPIREP. Il devra être complété par différents organes qui ont assisté à ces discussions et proposé au gouvernement pour l'approuver et procéder à son lancement. Alexis Mangala, secrétaire exécutif adjoint du COPIREP, au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
Nous avons proposé aux participants un modèle. Mais ce modèle-là, nous ne pouvons pas aller dans les détails parce qu'il faut des études complémentaires qui devraient être réalisées pendant la phase de stabilisation, qui seront discutées avec les différents intervenants, dont les syndicats de la SNEL, pour qu'une fois la stabilisation terminée, qu'on puisse mettre cette restructuration en pratique. La restructuration de la SNEL, c'est pas demain. Durant la phase de stabilisation, sera poursuivie une remise à niveau des équipements, des infrastructures de la SNEL. On devra procéder à une mise en évidence de la fonction commerciale. Donc il y a tout un tas d'actions qui devront être posées pour stabiliser et redresser la SNEL.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
La suite du journal, c'est avec vous, Thérèse Bassoubi. D'abord à l'Équateur, 10 cas de monkeypox, dont un décès, sont enregistrés dans le territoire de Bikoro, près d'Ingende.
Une équipe médicale a été dépêchée sur les lieux pour évaluer la situation, indique le médecin épidémiologiste de l'OMS Équateur, Adolphe Ngokolo. Par ailleurs, deux autres cas de cette maladie sont signalés à Boteka, localité à 126 km en amont de Mbandaka, ajoute-t-il. Les deux malades sont pris en charge à l'hôpital général de référence d'Ingende.
Nous vous le disions en titre, au Katanga, fermeture depuis hier des bureaux de l'ONG Dutch International de Lubumbashi sur ordre du ministère provincial de l'Intérieur.
Il est reproché à cet ASBL de s'adonner à des activités auxiliaires de banque par le système d'épargne à grand intérêt sans l'autorisation de la Banque centrale du Congo. Entre-temps, c'est le désarroi du côté des souscripteurs qui ont manifesté ce même mercredi et qui crient à l'injustice. Ils réclament le remboursement de leur argent. Reportage Jean Gandou.
La décision de fermeture de cette ONG est consécutive à un communiqué de presse de la Banque centrale du Congo qui dénonçait les opérations bancaires auxquelles cette ONG s'adonnait contrairement à son objet social. Non content de cette décision, ceux qui ont souscrit ne demandent qu'une seule chose, le remboursement de leur argent.
C'est que nous voulons, puisque au niveau de Dutch International, il y a nos mises. Nous avons placé nos sommes d'argent là-bas. C'est pourquoi nous sommes en train de réclamer à ce que, quel que soit ce qui se passe, qu'on nous retourne d'abord nos masses d'argent que nous avons déposées au niveau de Dutch International, qui est l'ONG.
Le directeur provincial de la Banque centrale du Congo, qui répercute la position de son gouverneur, rassure les souscripteurs.
Pour ne pas préjudicier la population victime de l'escroquerie de l'ASBL Dutch International, la Banque centrale du Congo procédera dans les tout prochains jours au remboursement des mises des souscripteurs sur base des fonds disponibles récupérés auprès de cette association.
Notons que depuis plus de 11 mois, Dutch International reçoit les mises des souscripteurs à qui il donne un bonus de 38% sur la mise principale après un mois. Pour la Banque centrale, cette opération fait penser au phénomène d'escroquerie de triste mémoire dénommée Bindo. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au sud Kivu, des bagarres rangées ont éclaté la nuit dernière entre un groupe d'étudiants de l'Institut Technique Médical Istem Bukavu et leurs camarades de l'Université Catholique de Bukavu, UCB.
Ces affrontements se sont déroulés dans les locaux de l'Istem qui abrite une partie des étudiants de l'UCB. L'heure est à l'évaluation des dégâts, mais les autorités académiques ainsi que celles de la police font état de blessés graves parmi les étudiants et de nombreux dégâts matériels. Les cours n'ont pas eu lieu ce jeudi à l'ISTEM. Le Collège provincial des étudiants et les autorités académiques de ces deux institutions ont entamé des concertations pour décanter la situation. Jean Kassami pour plus de détails.
D'après la police dépêchée sur les lieux pour apaiser la tension, les bagarres sont parties d'un fait banal aux environs de 20h. En effet, un étudiant de l'ISTEM a éclaboussé par mégarde de son camarade de l'ICB. Tous deux vivent dans le même home à l'Institut supérieur médical de Bukavu. L'étudiant éclaboussé en a fait un problème au point d'alerter tous ses camarades de l'ICB logés avec lui à l'ISTEM. Ceux de l'ISTEM à leur tour se sont coalisés et les bagarres ont dégénéré. Chaque groupe s'est servi d'armes blanches pour attaquer l'autre et la situation est redevenue calme lorsque les éléments de la police nationale congolaise sont arrivés sur les lieux une heure après. Les locaux de l'ICB situés dans l'enceinte de l'ISTEM venaient d'être sérieusement saccagés. Les vitres, les portes et les pupitres ont été cassés, plusieurs étudiants de deux camps blessés. Sept d'entre eux ont été admis à l'hôpital général de référence de Bukavu, dont trois dans un état grave. Ce matin, le conseil de gestion de l'ISTEM Bukavu a convoqué une réunion pour évaluer les dégâts. De son côté, les collèges de porte-parole des universités de Bukavu sont en train de réfléchir comment gérer la crise. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Terminons au Kasaï oriental avec cette suppression des taxes sur le maïs sur toute l'étendue de la province.
Cette mesure est de l'autorité provinciale à la suite de la rencontre tenue hier au gouvernorat avec les opérateurs économiques œuvrant dans ce secteur. La décision du gouverneur est l'une des voies de sortie de la province de la rareté du maïs constatée sur le marché.
Merci Thérèse. En dehors de nos frontières, la justice zimbabwéenne vient de décider ce jeudi de remettre en liberté sous caution le numéro 2 de l'opposition, Tendai Biti. L'information a été livrée à l'AFP par son avocat. Pour rappel, Tendai Biti avait été inculpé de subversion. Sa libération intervient à la veille du second tour de la présidentielle boycottée par l'opposition. En sport, le championnat d'Afrique de tennis de table se poursuit à Brazzaville. Les épreuves en individuel se sont terminées hier. La RDC a remporté une médaille en bronze grâce à Dasha Mongondo. L'or est revenu à une Brazzavilloise. Actuellement, se dispute le championnat d'Afrique de club. La RDC est représentée par le club ABC Spin de Kinshasa. Ce club aligne des athlètes dans les versions féminines et masculines. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.radiocapi.net. Au Capi.